Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette qui est là pour les prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Tout à l'heure, le chroniqueur Miguel Doucet sera là pour cette dernière revue de presse mensuelle de 2015. Il sera là aussi pour un petit bilan de cette dernière année. Donc, le grand sujet, la santé dans le monde. Un moment pour se renseigner, partager également des différentes initiatives à l'international en matière de santé et de sciences. Et aujourd'hui, ben, on ira faire un tour du côté du Mexique et des États-Unis. Aussi, vous dire que demain, c'est la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème « Vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées ». Un très long titre. Hein? Une journée où on est amené à réfléchir, autant en tant qu'individu, en tant que communauté, à comment on peut mettre de l'avant différentes initiatives pour favoriser l'inclusion de ces personnes-là qui vivent avec différentes limitations. Donc, comment favoriser leur autonomie? Comment leur donner toutes les possibilités comme tout le monde peut avoir? Également, comment on peut les impliquer à part entière dans notre société? Aujourd'hui, Maryse Filion, elle qui travaille du côté d'Altergo, parle de littératie physique inclusive. En plus clair, comment on peut stimuler, comment on peut faire bouger les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle? Bonjour Maryse.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
On commence par des études du côté de l'Université du Québec de Trois-Rivières qui nous démontrent que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle sont trop souvent mis de côté dans le cadre de leur cours d'éducation physique ou d'une pratique sportive. Et pourtant, ces jeunes-là ont également des besoins. Ils ont besoin de bouger, de se réaliser dans une activité sportive.
Oui, définitivement. Tout comme tout le monde, ils ont besoin de bouger. S'ils adoptent un mode de vie sédentaire, ils ont les mêmes conséquences qu'on peut avoir, comme on parle d'embonpoint, de surpoids, d'obésité. Donc, les conséquences qui vont avec sur la santé aussi. Donc, les maladies chroniques, maladies cardiaques, diabète de type 2. Donc, c'est encore plus important pour eux d'adopter un mode de vie actif pour être en bonne santé. Puis, briser les barrières de l'exclusion aussi, donc un aspect psychosocial très, très, très important dans l'activité physique pour ces jeunes-là, finalement.
Des impacts sur leur santé physique, vous dites, Maryse, peut-être comme tout le monde, oui, mais parfois, ils sont encore plus exposés que le reste de la population à certaines pathologies. Il faut quand même le souligner.
Oui, définitivement. L'étude de l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, ont démontré que les jeunes ont 2 à 3 fois plus de chances, donc des jeunes de 2 à 17 ans, 2 à 3 fois plus de chances d'avoir des problèmes d'embonpoint, d'obésité. Donc, c'est quand même significatif comme proportion, finalement. Donc, c'est important de les faire bouger, de les inclure dans l'éducation physique, la littératie physique.
Je pense que, d'entrée de jeu, il faut aussi cibler pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la littératie physique? C'est pas un terme auquel on est nécessairement habitué. Chez Altergo, vous faites un petit peu la comparaison avec la comptine qui serait là pour le développement du langage chez l'enfant. Ben, la littératie physique, ben, en fait, les activités, les jeux pour développer la littératie physique.
Oui, donc, vous l'avez mentionné, donc le parallèle qu'on peut faire, c'est à l'école, on a besoin d'apprendre les lettres pour pouvoir faire des mots puis faire des phrases par la suite. En littératie physique, on a besoin d'apprendre les mouvements de base, donc se déplacer, tourner, manipuler des objets pour être capable par la suite de les intégrer dans tout le type d'environnement. Donc, au Québec, on parle du sol, de la glace, de la neige, de l'eau. Donc, d'être capable de se déplacer dans tous ces environnements-là, puis par la suite, de les rendre plus compliqués. Donc, se déplacer avant-arrière, comment qu'on peut rendre ça plus compliqué? On ajoute un objet en se déplaçant, en tournant. Donc, on est capable d'avoir les bases, puis de construire des phrases par la suite pour intégrer un mode de vie actif plus facilement, dans le plaisir toujours. Là, c'est toujours un accès de jeu ludique pour que les gens puissent adopter à long terme l'activité physique.
Oui. Je trouve que c'est important que vous mentionniez le plaisir. Pour moi, le plaisir, ça correspond à la qualité de vie. Ça aussi, c'est un impact positif pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Qualité de vie, en même temps, inclusion. Vous l'avez dit tout à l'heure, on brise l'isolement. Il y a des impacts aussi au point de vue psychologique pour ces enfants-là.
Définitivement. Donc, plus un jeune s'intègre dans une classe régulière. Donc, on parle d'école, par exemple, régulière, qui a un ou deux jeunes qui ont une limitation. Si le prof est capable de les inclure dans une classe d'activité physique, que ce serait, si je parle, par exemple, de un prof qui fait du lancer du poids, il peut faire lancer un sac de sable qui est plus léger. Donc, si la personne a des limitations, le jeune se sent impliqué. Donc, il se sent faire partie de la société. Il y a un rôle important à jouer dans cette activité-là. Donc, il prend part à la société, il est plus motivé, puis il va être plus joyeux, il va partager plus avec les autres à ce moment-là. Mm-hmm. Puis les autres vont être plus à l'aise aussi à interagir avec eux. Donc, c'est vraiment un partage à ce niveau-là.
On sous-estime parfois l'échange qui peut se passer au-delà de se lancer le ballon et tout ce qui peut se créer autour de ça. Puis les amitiés qui peuvent se créer également. Maryse, vous avez dit que les intervenants soient capables. Vous intervenez avec beaucoup d'intervenants, beaucoup d'enseignants, que ce soit du côté scolaire, du côté communautaire, notamment dans le cadre du défi sportif. Hein. Est-ce que ces intervenants-là ont le loisir d'inclure ces jeunes-là comme ils le souhaiteraient?
Bien, ceux qui ont les outils pour le faire, qui ont la volonté pour le faire, le font. On a des beaux exemples au défi qui intègrent les jeunes. On a des classes qui sont aussi spécialisées, donc c'est juste des jeunes qui ont des limitations, mais différentes limitations, donc qui adaptent le cours en fonction. Mais il y a aussi beaucoup de profs encore qui mentionnent avoir trop peu d'outils pour être capables d'adapter les différentes activités physiques qu'ils font dans leur cours d'éducation physique. Mais je parle aussi dans le communautaire, donc un club sportif qui a un parent qui vient demander d'inclure son jeune qui a une limitation dans son sport, il n'est pas nécessairement outillé. Donc, c'est important de créer des outils pour ces gens-là, pour ces intervenants-là, pour qu'ils soient en mesure de au moins avoir une piste de réflexion pour ouvrir la réflexion puis aller chercher les ressources nécessaires.
Créer des outils, créer aussi des intervenants. Je pense, par exemple, à un parent qui pourrait arriver à un cours de natation avec son enfant autiste, par exemple. L'enseignant, l'intervenant n'a jamais travaillé. Oh, il manque peut-être certaines pistes. Est-ce que vous êtes également en mesure d'amener des outils, mais de formation auprès des intervenants?
Présentement, on travaille justement sur de la formation de littératie physique inclusive. Donc, comment adapter, comment, pour chacune des limitations, qu'est-ce qu'on peut penser comme adaptation? Est-ce que c'est les règles? Est-ce que c'est le matériel qu'on adapte? Est-ce que c'est la façon qu'on le mentionne, qu'on fait apprendre la technique d'enseignement? Est-ce que c'est à place de dire, de faire le mouvement ou de le démontrer avec une affiche? Donc, on est en train de développer une formation de littératie physique inclusive qui se veut justement sensibiliser les intervenants, autant au milieu scolaire que communautaire. Je parle aussi des camps de jour. Donc, eux aussi, ils font de l'activité physique avec les jeunes qui ont des limitations. Donc, ça, c'est en processus. Puis, on a un événement qui s'en vient, le colloque Choisir de gagner. Oui. Il y a plusieurs formations spécifiques sur comment intervenir en activité physique pour différentes limitations fonctionnelles. Donc, on a à observer. Là. Donc, très intéressant. C'est très pratique. Les intervenants qui vont venir à l'événement vont pouvoir vivre les formations. Ils vont bouger, puis ils vont pouvoir vivre différentes adaptations possibles.
Le colloque a lieu le 8 décembre. On va en reparler, Maryse, bien sûr. Donc, je reviens sur ces outils-là. les outils, vous avez donné des exemples extrêmement probants. Ils existent. Parfois, on n'y a pas accès d'entrée de jeu. Il faut fouiller un petit peu plus. Toutefois, on dirait que dans la culture plus anglophone au Canada, ou peut-être même ici à Montréal, au Québec, il semble y en avoir davantage que dans le milieu francophone. On peut expliquer ça de quelle façon?
Bien, en fait, la littératie physique, c'est un terme qui est qui est bâti du milieu anglophone. Donc, c'est sûr que les outils, présentement, il y en a beaucoup qui ont été traduits puis qui ils sont utilisables en français, sont très pratiques. J'en ai vu plusieurs, puis je réfère beaucoup les professeurs à ces outils-là. Donc, je pense entre autres à la Fédération des éducateurs physiques du Canada qui ont des outils anglophones qui ont été traduits en français. Il y a un organisme ontarien qui s'appelle OFEA qui a aussi une belle gamme de séances d'activités physiques adaptées qui ont développé, qui a été adaptée en français. La seule différence, c'est les objectifs des programmes d'éducation physique ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est très adaptable facilement quand même. Donc, les professeurs, les intervenants peuvent s'y référer. Puis, il y en a d'autres aussi qui existent. Sur le site de choisirdegagner.com, il y en a plusieurs qui ont été répertoriés. Donc, je vous invite à aller consulter le site pour pouvoir avoir toutes ces ressources-là à votre disposition, puis pouvoir aller chercher un peu plus loin là, les informations.
On mettra choisirdegagner.com sur notre site. Maryse, on a beaucoup parlé des intervenants, des enseignants. Il y a les parents aussi, parfois, qui sont un petit peu plus démunis, que ce soit à cause des ressources financières, à cause des ressources de temps, d'informations qui, pour eux, ne sont pas accessibles nécessairement. Est-ce que le colloque du 8 décembre s'adresse également à eux?
Ça s'adresse à toutes les personnes qui interagissent avec un jeune qui a une limitation. Un parent peut venir pour se renseigner. Ça dépend de son intérêt, je pense. Toute personne qui sont intéressées à en savoir plus sur comment interagir avec les jeunes qui ont une limitation, ils vont pouvoir choisir la formation qu'ils désirent. Il y a 4 formations qui vont être offertes, formations spécifiques. Puis, à ce moment-là, ils sont les bienvenus, bien sûr. Surtout qu'il y a des kiosques d'organismes qui offrent des services pour les jeunes qui ont des limitations pendant le colloque aussi. Donc, c'est intéressant pour eux d'aller échanger, voir les différents services qui peuvent leur être offerts pour eux, pour leurs jeunes. Donc, ça peut être une belle opportunité.
Que ce soit, j'imagine, des cours de natation, du soccer, tout ça, là, des activités très, très concrètes. Là.
Des organismes, oui, en effet. Dans les organismes, je pense entre autres, j'ai pas la liste devant moi, malheureusement, là, mais il y a l'Institut Nazareth et Louis Braille qui vont être là. Il y a Parasport Québec, Comité paralympique canadien. Donc, il y en a plusieurs. Je n'ai pas la liste. Il y en a une vingtaine de kiosques qui offrent des services pour les jeunes qui ont une limitation. Donc,
ce qui est formidable et qui est également à considérer dans cette initiative-là, que ce soit autant du côté de l'intervenant à l'école ou du parent, c'est qu'on sème une graine. L'enfant qui va apprendre à aimer bouger va bouger toute sa vie et ça aura des impacts sur sa santé autant mentale que physique, même à l'âge adulte. Là.
Oui, c'est un peu l'objectif, en fait, du projet de la littératie physique. C'est développer les bases pour que le jeune ait le plaisir, la motivation à intégrer une activité physique ou sportive, puis à le maintenir toute sa vie. Donc, c'est la base de la littératie physique, finalement. C'est découvrir le plaisir, comment on peut apprendre tout en jouant, tout en faisant du sport, puis en développant notre confiance aussi. Donc, si on a les bases nécessaires, c'est beaucoup plus facile par la suite de s'intégrer dans peu importe le sport, parce que les bases, se déplacer, courir, bien, dans tous les sports ou presque on en a besoin. Si on est capable de lancer une balle, il y a plusieurs sports aussi. Donc, on pense au boccia, on pense au baseball, on pense au basketball, c'est un ballon. Donc, on manipule un objet. Donc, plus on a de bases solides, plus c'est facile puis c'est motivant à vouloir essayer des nouveaux sports aussi.
Oui, des bases et des outils pour aller au-delà des obstacles, parce qu'on sait bouger, avoir un rythme de vie actif, là, des saines habitudes de vie en matière d'activité sportive, bien, c'est difficile pour tout le monde. Là. Même des gens qui n'ont pas de handicap, de garder cette routine-là, d'être discipliné.
Vous l'avez bien dit. Oui.
Donc, pour des enfants qui vivent avec différentes limitations, c'est encore une difficulté. Si on peut amoindrir ça, bien, c'est déjà un grand plus. Bon, avant de se quitter, Maryse, je veux parler du colloque du 8 décembre, colloque Choisir de gagner, la journée de la littératie physique inclusive. On l'a dit, ça s'adresse à toute personne qui est en interaction avec un enfant qui vit avec une limitation, différentes limitations, motrices, d'apprentissage, intellectuelles également. Qu'est-ce qu'on pourra y rencontrer ou apprendre au cours de cette journée-là?
Bien, on apprend, entre autres, qu'est-ce que la littératie physique? On va pouvoir le vivre à travers les différentes formations. Apprendre comment interagir, comment enseigner le sport auprès pour les jeunes qui ont une limitation. Donc, selon la limitation, il y a différentes formations. On va pouvoir côtoyer puis partager l'expérience qu'on a avec d'autres enseignants, d'autres intervenants, puis aussi avec d'autres organismes qui vont être là avec les kiosques. Mmh. Puis on va pouvoir apprendre aussi qu'est-ce que le défi sportif, puis est-ce que mon enfant, les jeunes avec qui j'interviens, peuvent participer au défi sportif, puis comment les amener aussi là, au défi sportif par la suite.
Il y aura également des conférences, des formations au cours de l'avant-midi. Quatre, si je ne me trompe pas.
Quatre formations. Donc, il y en a une qui va être sur l'intervention en conditionnement physique, en activité physique pour les jeunes avec TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Une sur le langage, langage parole et les limitations connexes. Il va en avoir une sur la gymnastique rythmique. Donc là, c'est l'intervention un peu plus sur les personnes qui ont une limitation intellectuelle, mais ça s'adresse à tout le monde, la gymnastique rythmique. Donc, tous ceux qui aiment danser avec sur de la musique, ils peuvent être intéressés à cette conférence-là. Et j'en oublie une.
Les Paralympiens?
Oui. Paralympiens recherchés.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est celle-là que j'oublie?
Pour évaluer les aptitudes des jeunes en déficience motrice, visuelle, donc pour encadrer...
Oui, j'en oublie une autre, par exemple.
On va les réviser. Oui. Enseignement des habiletés fondamentales du mouvement et du savoir-faire.
Oui, celle que j'oublie, je le sais, c'est l'athlétisme. Donc, programme Course Haute Lance avec Athlétisme Québec. Donc, c'est des mouvements fondamentaux qui ont été inspirés de l'athlétisme. Donc, ça s'adresse à tous les types de limitations.
Il n'y en a plus que quatre. C'est moi qui vous...
C'est ça. Donc, Paralympiens recherchés, malheureusement, on a dû la mettre de côté, mais ils vont être présents pour pouvoir présenter. Là. Donc, c'est un kiosque qu'on a.
C'est parce que sur ma feuille, il y en a que c'est écrit en tout partout. J'ai de la misère à les lire. Mmh. Et les plus foncés, ben, il y en a quatre. Oui. Voilà. Moi, j'y serai, Maryse Filion.
Super.
J'ai décidé d'assister à cette discussion sur le trouble du langage. Et ce sera un plaisir de vous y retrouver. En plus, je pense qu'il faut le spécifier, c'est gratuit.
C'est gratuit. Donc, toute personne, peu importe le contexte, vous êtes les bienvenus. Puis c'est une belle chance d'avoir de la formation continue, là. Peu importe le
du côté de Longueuil.
Oui.
Et ça, ce colloque-là du 8 décembre, c'est votre première pierre lancée en vue de ce grand projet sur la littératie physique inclusive lancé par Altergo. C'est un projet que vous voulez échelonner sur plusieurs années, ça, Maryse?
Bien, on a la première phase, c'est un an. Puis, on espère pouvoir, avec la première année, pouvoir déposer un deuxième projet pour avoir une phase 2 de ce projet-là. Donc, cette année, on développe des outils, on en fait la promotion. Donc, on a l'événement Colloque Choisir de gagner qui établit, on fait la promotion, c'est quoi la littératie physique, qu'est-ce qui existe présentement. Puis, par la suite, on va avoir notre formation de littératie physique inclusive qu'on travaille présentement. Puis des outils aussi vidéo qui vont être mis éventuellement sur le site de Choisir de gagner. Donc, en processus, là, on ne sait pas les dates exactes, là, mais
donc,
ça va être...
Donc, différentes actions pour des impacts que l'on peut vraiment comptabiliser, des impacts probants. Tout ça, pour le bénéfice des jeunes qui vivent avec différentes limitations. Maryse Filion, ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Ça fait plaisir.
Vous êtes coordonnatrice transport et hébergement du côté d'Altergo.
En fait, j'ai changé. Je suis coordonnatrice littératie physique inclusive. On vous a mal renseigné.
Oui, je n'avais pas ces petites notes-là.
L'année passée, j'avais ce poste-là.
Et puis, nous, on se voit le 8 décembre.
Oui, puis en terminant, n'oubliez pas d'aller sur le site choisirdegagner.com. Il y a différents événements là, qui vont avoir lieu dans les mois prochains dans différentes régions du Québec là, sur l'intervention auprès des jeunes.
On sera attentifs. Merci.
Super. Ça fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Miguel.
Bonjour Marianne.
Un bilan 2015 en ce qui a trait aux initiatives en santé internationale, une initiative bien sûr signifiante qu'on admire, qu'on aimerait adopter ici.
Oh que oui.
Et première initiative du côté du Mexique en ce qui a trait à ce désir de freiner la consommation de boissons sucrées. On le sait, les Mexicains sont assez friands de boissons sucrées et ben, ça a plusieurs impacts sur leur santé.
Exact. Alors, on a regardé en fait, surtout cette année, la taxe qui a été imposée sur ces boissons sucrées. La Chambre de base du Congrès mexicain a voulu voter pour qu'il y ait une baisse, que ça soit annulé finalement, mais ça n'a pas passé, une chance. Et ça nous permet encore d'observer. Et qu'est-ce que c'est? C'est un peso par litre de soda, ce qui correspond à environ à peu près une hausse de 10 % du coût d'une boisson sucrée, parce qu'on veut prévenir contre l'épidémie d'obésité et prévaloir contre le diabète.
Oui, qui est assez en taux assez important là, au pays.
En effet, parce qu'en 2006, on observait que depuis 2000, ce serait le premier cas de décès. Le diabète. Alors, c'est énorme. Et on a vu aussi une augmentation de 40 % de l'obésité chez les enfants entre 5 et 11 ans. Alors, est-ce que les industries étaient favorables à ça? Bien sûr que non.
C'est sûr.
Mais c'est pas tant la taxe elle-même qui les dérange, mais plus la démonisation, tu sais, de mettre le mal sur la boisson sucrée. Mais, alors, on a tenté de remettre, oui, mais si vous faites un équilibre ou que vous faites de l'exercice, bien, ça il n'y aura pas de problème.
Que la gestion du poids, au fond, ça venait de l'activité physique seulement et que de boire des boissons sucrées n'avait pas d'impact. Puis il fallait comme juste valoriser de saines habitudes de vie.
Ce qui est faux, puisque c'est le mix des deux entre l'activité physique et, bien sûr, l'alimentation. Et bon, une alimentation qui, avec une consommation excessive de sucre, bien, on le sait, peut être responsable, justement, on parlait de diabète. Et est-ce que la taxe est efficace, finalement?
Oui.
Alors là, c'est encore la question qu'on se pose parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir. On a vu que dans certaines villes, on a tenté de le faire. Je donne des exemples en Finlande, en France, en Hongrie, mais ça n'a jamais été le cas. On a pris cette taxe-là pour la mettre sur d'autres projets, mais là, ici, c'est vraiment dans un but de voir un impact sur le physique et ce taux d'obésité chez les gens. Mm-hmm. Alors, peut-être que la seule chose qu'on peut remarquer qui donne l'espoir, c'est qu'il y a une baisse de 6 % sur les boissons sucrées et une hausse de 4 % pour les bouteilles d'eau.
Mm-hmm. Et en même temps, les industries de la boisson sucrée, boisson gazeuse, disaient « Ah, vous allez pénaliser les gens plus pauvres », qui était quand même, je trouve, un argument plus ou moins intéressant de leur part, là.
Mais c'est vrai que souvent, c'est une des alternatives, surtout si on regarde du côté du Mexique, que peut-être les boissons sucrées sont une des première boisson que les gens vont boire chez les plus pauvres. Mais ça soit pas juste au Mexique, on pourrait prendre ici des cas. Mais peut-être que cette taxe-là peut être mise de l'avant pour favoriser une saine alimentation, une augmentation de fruits et légumes. Et ça m'amène à parler de Boston. Mm-hmm. Et Boston, qui est une pionnière en agriculture urbaine, et c'est depuis 2010, et regarde, juste de dire le nombre depuis 2010, question, c'est 200 jardins communautaires, 120 jardins scolaires, ça c'est génial, 80 vergers et 30 marchés fermiers. Alors on raconte ça que c'est vraiment un succès pour la ville de Boston, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent commercialiser donc cette industrie alimentaire agricole. Et c'est vraiment le maire qui a mis de l'avant avec des entreprises qui ont vu ces terrains vacants et qui ont décidé de mettre de l'avant pour une agriculture urbaine. Et qu'est-ce qu'on veut surtout? Bien, c'est surtout, on permet des fermes sur les toits, des fermes intérieures, la culture hydroponique, entre autres, déjà. Mais donc, ces terrains-là vont servir en plus pour permettre une accessibilité Et offrir aux citoyens des produits frais, sains, locaux et surtout abordables.
Oui, de très, très belles initiatives. On y investit 500 000 par année depuis des années, là, ce qui est énorme quand même. Et on voit, les résultats sont probants là, avec ces jardins communautaires, scolaires, les vergers et les marchés fermiers.
Et moi, je veux juste dire une chose. Boston est à 5 heures d'autobus, mettons, de Montréal. Ouais. On y va pas souvent, puis ça donne le goût d'aller voir. Puis on devrait, parce que justement, ici, à Montréal ou juste en Montérégie, on a de moins en moins de terrains. On prend moins le temps de... Il y a des terrains en Montérégie qui vont être enlevés par le gouvernement pour être remis à des entreprises. Alors, je trouve ça aberrant de voir que, justement, on ne prend pas aussi à cœur, justement, nos produits agricoles locaux et qui donneraient aussi une économie locale.
Oui. Maintenant, un sujet qui vous intéresse beaucoup, Miguel, tout ce qui a trait à la technologie en matière de santé. Du côté du MIT, on a fait un bilan 2015.
Encore là, hein, on est dans les bilans. Le Massachusetts Institute of Technology a fait leur top 10 et j'en ai retenu quelques-uns. Et entre autres, celui-ci, la biopsie liquide et ce qui permettrait de découvrir les cellules cancéreuses. C'est comme un scan de l'ADN et c'est un chercheur, M. Dennis Low, un chercheur de la Chinese University of Hong Kong, qui, lui, avait déjà été un précurseur en 1997 pour, à partir de l'ADN d'un fœtus qui se mêle avec le sang de la mère pour permettre de découvrir...
la trisomie 21.
Exactement, mm-hmm. Le syndrome de Down. Et là, il se dit être en mesure de pouvoir, avec la biopsie liquide, de détecter avant même que le patient le save, peut-être de...
Même avant qu'il y ait eu les premiers symptômes, c'est incroyable, ça.
Mais là, on comprend aussi qu'il y a plusieurs gens qui investissent dans sa recherche et c'est fabuleux. Et on essaie d'avoir justement un séquenceur, donc la taille d'un cellulaire, donc une machine qui permettrait de pouvoir, un tout petit portable, permettre justement de prévoir, en fait, les cancers.
Et tout type de cancer. Il reste une minute, Miguel, donc on aura le temps de parler de l'Internet, de l'ADN. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Eh bien, c'est qu'on voudrait permettre aux généticiens de l'ADN de permettre d'avoir accès dans une banque Internet tous les ADN de plus d'humains possible. Et c'est pour comparer et puis permettre justement de trouver peut-être des erreurs dans les combinaisons. Et quand on a face à des maladies rares, les chercheurs sont un peu mal pris. Alors, ils pourraient voir à travers la planète avec d'autres chercheurs, donc dans cette banque-là, là, les ADN pour des maladies plus rares et permettre justement des avancées. Mais c'est sûr que au niveau des barrières sociologiques et juridiques, c'est pas facile. Il y a quand même la protection aussi.
Un côté éthique dans tout ça.
Exactement. Mais on veut trouver des solutions et permettre le plus possible à des gens de guérir des maladies génétiques rares.
Miguel Doucet, merci pour ce bye-bye de l'année en matière de santé et science un petit peu partout dans le monde. Vous nous faites toujours voyager. Un plaisir, Miguel.
Mais merci, Marianne.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnat à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.